Chapitre 34. La soirée d'un commissionnaire. Le soir, à l'heure dite, la calèche de voyage, parfaitement remise en état par le charron, s'arrêtait à une cinquantaine de pas de la barrière Croulebarbe. Le postillon, arrivé ventre à terre et 10 minutes avant l'heure convenue, crut d'abord à une mystification lorsqu'il vit que les personnes qu'il avait fait venir avec tant de rapidité non seulement ne se trouvaient pas au rendez-vous, mais encore ne faisaient point mine de paraître. Au bout de quelques minutes, cependant, en apercevant deux jeunes gens qui arrivaient d'un pas rapide, en marchant bras dessus, bras dessous, le postillon, qui était descendu de son cheval, se remit en selle et se tint immobile sans tourner la tête comme un postillon de pierre. Salvatore et Justin s'approchèrent de la voiture, précédés de Roland, qui, si vite qu'il marcha, se marchait encore plus vite qu'eux. Salvatore ouvrit la portière, déplia le marchepied et dit à Justin « Montez ». En entendant ce seul mot, le postillon se retourna comme s'il eût ressenti quelque commotion électrique, et en voyant et reconnaissant celui qu'il avait prononcé, il devint écarlate de plaisir. Soulevant alors lentement son chapeau, il salua Salvatore d'un joyeux et respectueux bonjour. « Bonjour, mon ami, » fit Salvatore en souriant et en tendant au postillon sa main fine et aristocratique. « Comment se porte ton vieux brave homme de pair ?»«
Comme un charme, monsieur Salvatore, » répondit le postillon. « Et s'il eût su que c'était vous qui voyagez, il serait venu vous conduire lui-même, malgré ses 76 ans. »«
C'est bien, j'irai le voir un de ces jours. » Il demeure toujours à la Bastille.
Parbleu, repartit orgueilleusement le postillon. Qui est-ce qui a le droit d'y demeurer, si ce n'est lui?
Au fait, tu as raison, dit Salvatore. C'est bien le moins qu'un conquérant habite la place qu'il a conquise.
Puis, montant après Justin, qui s'était déjà accommodé dans la voiture, veux-tu monter, Roland? Demanda-t-il à son chien.
Roland secoua la tête.
Non, continua Salvatore. Tu aimes mieux aller à pied? Va, Roland, va.
« Quelle route, monsieur Salvatore ?» demanda le postillon.
« La route de Fontainebleau.
Motus, tu ne me connais pas. »«
Sans vous commander, monsieur Salvatore, puisqu'il y a du mystère là-dessous, pouvez-vous dire à un ami où vous allez ?»«
Ah, toi, oui, mon petit Bernard, je vais à la cour de France. »«
Et vous vous arrêterez là, toute la nuit ?»«
Ah, c'est bien, vous ne serez pas espionné, je vous le promets. »«
Que veux-tu dire ?»
« Rien, ça me regarde, monsieur Salvatore. Rapportez-en-vous à moi. Faut-il vous enlever l'étape ?»«
Oh non, Bernard, marche ordinaire. Nous n'avons pas besoin d'être à la cour de France avant 10 heures. »«
Alors en douceur, au petit trot. Ah, ce n'est pourtant pas comme cela que j'aimerais à vous conduire, monsieur Salvatore. »«
Et comment voudrais-tu me conduire, mon garçon ?»«
Comme j'ai conduit l'empereur en 1815, 5 lieues à l'heure. » »«
Puis tout bas... »
Est-ce que vous n'êtes pas notre empereur à nous, vous, monsieur Salvatore? Est-ce que quand vous direz aux armes, on ne prendra pas les armes? Est-ce que quand vous direz en marche, on ne marchera pas?
Eh bien, Bernard, fit en riant Salvatore.
Chut, silence, bah, est-ce que les amis de nos amis ne sont pas nos amis? Puisque ce monsieur-là est avec vous, c'est qu'il en est.
Et Bernard fit un signe maçonnique.
« Oui, mon ami, j'en suis, » répondit Justin, « tu as raison. Et puissais-je être là le jour où, comme tu le disais tout à l'heure, il faudra prendre les armes et marcher ?»«
Ah, vous voyez, monsieur Salvatore, tout va bien. Il ne nous reste qu'à chanter « Allons, enfants de la patrie !»
Et chantant le refrain national, le postillon enleva ses chevaux d'un coup de fouet. La voiture partit, soulevant un tourbillon de poussière qui, doré par les derniers feux du jour, la faisait ressembler vaguement au char du soleil descendant du ciel sur la terre. Nous ne rapporterons pas la causerie des deux amis pendant que l'obscurité s'épaississait graduellement autour d'eux. Comme on le comprend bien, ce fut l'espérance qui devint le sujet principal de la conversation. Encore 4 heures, encore 3, encore 2, on toucherait au sommet de ces félicités humaines qu'on entrevoyait depuis si longtemps à travers d'épais nuages et de noires brumes. Madame Corbie et Sœur Céleste avaient été ravies de l'événement qui se préparait. C'étaient deux cœurs croyants et qui espéraient bien que Dieu n'abandonnerait pas Justin à l'heure du danger. La séparation qui était nécessaire ne pouvait être que momentanée, et l'on se retrouverait réunis au foyer de famille pour ne plus se quitter jamais.
tout était donc pour le mieux, et de ce changement de position, nul ne voyait autre chose que les ineffables promesses et les suprêmes joies. On s'arrêta à Villejuif, le temps de relayer, et l'on repartit. Salvator se pencha en dehors de la portière et regarda à sa montre. Il était 9h30. Au bout d'une heure, on aperçut le profil des fontaines de la Cour de France, ou, nommons-les de leur véritable nom, les fontaines de Juvisy, fontaines fastueuses, ornées de trophées et de génies sur un piédestal, véritable type de l'architecture de Louis XV vers le milieu du XVIIIe siècle. Le postillon s'arrêta, descendit de cheval et ouvrit la portière. « On y est, monsieur Salvator, » dit-il. « Comment, c'est toi, Bernard ?»« Eh oui, c'est moi. Tu as fait deux postes ?»« Sans doute. Je croyais la chose défendue. Est-ce qu'il y a quelque chose de défendu pour vous, monsieur Salvator ?»« Mais, enfin, voici comment cela m'est venu. Je me suis dit... « Monsieur Salvator fait un coup pour le bien de la chose. Il a besoin d'un homme qui n'ait ni yeux ni oreilles, mais qui, peut-être bien, soit muni de bons bras. Je suis l'homme. Alors, à Villejuif, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit à Pierre Langlumé, dont c'était le tour de marché, « Ah, ce n'est pas ça, qui, oh Pierre, mon ami, ce pauvre Jacques Bernard a une affection aux fontaines de la Cour de France. Il faut que tu lui cèdes la place, afin qu'il puisse dire deux mots en particulier à sa particulière, et on paiera bouteille au retour. Ça va-t-il ?»« Ah, touche-la, » répondit l'englumé. « J'ai touché. Et me voilà. Maintenant, monsieur Salvator, me suis-je trompé ? Bonsoir. Il n'en sera ni plus ni moins. J'aurai dans le ventre 5 lieues de plus que mon compte. Un postillon d'amour comme moi ne meurt pas pour si peu. Ne me suis-je pas trompé ? À vos ordres. Et si l'on se fait casser pour vous la margoulette, on se confectionnera une sous-gueule avec son mouchoir, et l'on ne vous reparlera jamais de la chose. » Salvator tendit la main à Jacques Bernard. « Ah, mon ami, lui dit-il, je ne crois pas que j'ai besoin de toi aujourd'hui, mais sois tranquille, si l'occasion se présente d'utiliser ta bonne volonté, je ne m'en ferai pas faute. »« C'est dit, monsieur Salvator ?»« C'est dit. Top, qu'y a-t-il à faire maintenant ?»« Mais remonte en selle et compte à peu près 150 pas. »« Et après ?»« Arrête. » Bernard se remit en selle et s'arrêta au bout de 150 pas. Puis il descendit et ouvrit la portière. Salvator mit pied à terre et s'avança vers le fossé. À 20 pas de lui, un homme se leva et compta jusqu'à 4. Salvator compta jusqu'à 8 et marcha jusqu'à l'homme. L'homme, c'était le général Le Bastard de Prémont. Salvator conduisit le général à la voiture où il prit place, puis montant lui-même derrière lui, « À Châtillon, dit-il à Bernard. »« À quel endroit de Châtillon, mon maître ?»« À l'auberge de la Grâce de Dieu. » Ah, on connaît cela. Enlevez les poulets d'Inde. » Et d'un coup de fouet, enlevant ses chevaux, Jacques Bernard prit la route de Châtillon. Et 10 minutes après, la voiture s'arrêtait, tremblant sur ses essieux, devant l'auberge de la Grâce de Dieu. Pendant le trajet, Salvator avait présenté Justin au général. Seulement, le général savait qui était Justin, tandis que Justin ignorait complètement qui était le général et surtout quel service le général lui avait rendu. On arriva, comme nous l'avons dit, devant l'auberge de la Grâce de Dieu. On se souvient que c'est là que Salvator avait donné rendez-vous à Jean Taureau et à Toussaint l'Ouverture. Les deux Mohicans étaient à leur poste, et, chose étrange, quoiqu'ils y fussent depuis 1 heure environ, la bouteille qu'ils avaient devant eux n'était pas encore débouchée. On eût pu croire que c'était la seconde, mais les verres étaient aussi nets que s'ils sortaient de la manufacture. Tous deux se levèrent en apercevant Salvator qui était descendu seul de voiture et seul était entré dans l'auberge. Salvator regarda autour de lui et vit que les deux hommes étaient dans un coin et tout à fait isolés. Jean Taureau comprit la préoccupation du commissionnaire. « Oh, vous pouvez parler, monsieur Salvator, dit-il, personne n'écoute. »« Oui, dit Toussaint l'Ouverture, vos instructions seulement et l'on obéira. » « Elles seront courtes, dit Salvator. Je puis avoir besoin de vous cette nuit. Ah, »« Tant mieux, dit Jean Taureau. Je puis aussi n'en avoir pas besoin. »« Tant pis, dit Toussaint l'Ouverture. En tout cas, je vous emmène avec moi. Nous voilà. Vous ne demandez pas même où je vous emmène ? Pourquoi faire ? Vous savez bien que quand même ce serait au diable, nous irions, dit Barthélemy le Long.
Après, demanda Toussaint l'Ouverture, après je vous placerai où vous devez rester, et sur votre vie ne paraissez que lorsque je dirai à moi.
Mais si cependant vous courez quelque danger, monsieur Salvator,
cela me regarde.
Enfin.
Votre parole que vous ne paraîtrez que quand je dirai à moi.
Dame, il faut bien vous la donner.
Votre parole.
Foi de Barthélemy le Long,
foi de Toussaint l'Ouverture.
C'est bien, Barthélemy, mets ses cordes dans ta poche, et toi, Toussaint, mets ce mouchoir dans la tienne.
C'est fait.
Maintenant, connaissez-vous le parc de Viry?
Pas moi, dit Toussaint.
Je le connais, moi, dit Jean Taureau.
Bah, qu'un des deux le connaisse, cela suffit.
Eh bien, allez à travers champs, et quand vous apercevrez un grand mur blanc qui fait équerre avec la route, vous vous arrêterez et vous vous cacherez aux environs. Je vous retrouverai là.
C'est compris, répondirent ensemble Jean Taureau et Toussaint l'Ouverture.
Bien, à tout à l'heure alors.
À tout à l'heure, monsieur Salvator.
Les deux Mohicans partirent.
Salvator rejoignit le général Le Bastard de Prémont et Justin, qu'il avait laissé, comme nous l'avons dit, dans la voiture. On reprit le chemin par lequel on était venu jusqu'à Châtillon, et l'on arriva sur la grande route de Fontainebleau, à l'endroit même où un chemin en pente conduit au pont Godot et de là au château de Viry. L'œil exercé de Salvator reconnut deux ombres glissant dans les ténèbres, c'était Barthélemy le Long et Toussaint l'Ouverture. On suivit le chemin en pente, on arriva au pont Godot, et l'on aperçut de loin le mur blanc qui semblait, la nuit, une rivière coulant à travers la plaine. On descendit, on remisa la voiture dans un massif d'arbres s'élevant sur un des bas-côtés de la route et dont la nature semblait avoir fait, exprès pour cette circonstance, un immense hangar. On recommanda le silence à Jacques Bernard, tout fier d'être pour quelque chose dans le mystérieux événement qui se préparait. La voiture remisée, au lieu de continuer à suivre le chemin vicinal conduisant à Viry, Salvator en tête, suivi par Justin, lequel était suivi du général, on s'engagea dans un petit sentier qui conduisait au pied du château. On s'avançait, per amica silentia lunae, comme disait Virgile, par une des dernières nuits de printemps, ou plutôt par une des premières nuits d'été. L'air était tiède, le ciel plein d'orages, et à chaque instant, cette même lune, qui, ainsi que nous venons de le dire, prêtait aux voyageurs son silence ami, jouait au jeu de cache-cache, comme font les enfants derrière un arbre, se voilant sous un nuage noir, reparaissant et se revoilant de nouveau. Ils arrivèrent ainsi, tous trois, près de la grille que nous connaissons. Ils s'inclinèrent à droite et parvinrent à l'endroit de la muraille que Justin avait l'habitude de franchir. Là, on indiqua au général la manœuvre qu'il s'agissait d'accomplir. Salvator se plaça contre le mur et fit la courte échelle. Justin donna l'exemple en montant le premier et en sautant de l'autre côté du mur avec une agilité qui prouvait combien lui était familier cet exercice. Le général le suivit, et quoiqu'il eût 15 ans de plus que Justin, il ne fut point en reste d'adresse et de légèreté. Roland, croyant que son tour était venu, s'apprêtait de son côté à prendre son élan, lorsqu'il fut retenu par un signe de son maître. Celui-ci n'avait point oublié les deux compagnons qui avaient pris les devants, mais que, grâce au fouet de Jacques Bernard, il avait laissé en arrière, et il alla les attendre à l'angle du mur. Il n'y était pas depuis 5 minutes quand il aperçut Jean Taureau et Toussaint l'Ouverture, dont les deux ombres commençaient à se dessiner à l'horizon comme les silhouettes de géants. L'apparition était d'autant plus fantastique qu'on les voyait approcher sans que l'on entendît le bruit de leurs pas. Ils arrivèrent ainsi près de Salvator qui s'aperçut alors qu'il marchait pieds nus.
« Ah, bravo, dit-il à voix basse, je vous attendais. »«
Nous voilà, répondirent les deux hommes.
Suivez-moi. »
Le charpentier et le charbonnier obéirent. Arrivés à l'endroit du mur qu'avaient escaladé Justin et le général, Salvator s'arrêta.
« Ah, c'est ici, dit-il. »«
Ah, ah, fit Jean Taureau, il s'agit de passer de l'autre côté, à ce qu'il paraît. »«
Oh, mon Dieu, oui, justement, et l'on va vous montrer comment cela se pratique, ami Jean Taureau, dit Salvator. »«
Ici, Roland. »
Roland vint à son maître, se dressant lui-même contre la muraille sur les deux pattes de derrière. Salvatore souleva le chien à la hauteur du mur, celui-ci s'accrocha au chaperon avec ses griffes de devant et s'aidant de ses griffes de derrière, sauta dans le parc. Salvatore s'élança, saisit le chaperon avec la main et, à la force du poignet, s'éleva lentement et par une savante gymnastique. En une seconde, il était à Califourchon sur l'arête de pierre. « Allons, dit-il, à votre tour !» Les deux hommes regardèrent le rempart qui se dressait devant eux. « Diable, diable !» fit Jean Taureau. « Comment, toi, un charpentier, maître sur tous ?»« Dame, si Toussaint l'ouverture n'a pas peur que je ne l'aplatisse et veut me faire la courte échelle, dit Jean Taureau, cela se pourra encore. »« Je n'ai pas peur, dit Toussaint l'ouverture. » « Je pèse 105 kilogrammes, je t'en préviens, Toussaint, » dit Barthélemy le Long. « C'est un peu plus que 2 sacs de charbon, » répondit Toussaint, « et on en a porté jusqu'à 3. Mais moi, oh, une fois que je serai monté, ne t'inquiète plus de rien, toi. Monte alors, » dit Toussaint. Le charbonnier rendit à Jean Taureau le service que Salvatore avait rendu un quart d'heure auparavant à Justin et au général. En quelques minutes, Jean Taureau était assis sur le sommet du mur en face de Salvatore. Il était temps, si peu qu'eût duré l'ascension, Toussaint commençait à plier sous le poids du géant. « Là, dit-il, et tirant de sa poche le paquet de cordes, il pratiqua à son extrémité une espèce d'œillet. « Empoigne-moi cela, dit-il à Toussaint, et solidement. » Toussaint obéit au commandement et empoigna la corde. « Tiens-tu ? » demanda Jean Taureau. « Oui. » « Mais ferme, là, ferme, sois tranquille. »« Alors, dit Jean Taureau, enlevez, c'est pesé. » Et tirant d'une main Toussaint à lui, il le saisit de son autre main par le collet de sa veste de velours et l'amena au niveau du chaperon comme il eût fait d'un enfant. Arrivé là, Toussaint voulut se cramponner des deux mains au chaperon. « Oh, ce n'est pas la peine, dit Jean Taureau. » Et prenant le charbonnier sous les jambes avec l'autre main, il lui fit franchir la crête de la muraille et, lui rendant sa position perpendiculaire, abandonné un instant pour l'horizontale, il le laissa retomber dans le parc. Et puis, s'apprêtant à en faire autant, « À mon tour, dit-il. » Mais Salvatore, lui posant la main sur la cuisse en homme qui réclame le silence, « Écoute, dit-il. Quoi ? Chut !» On entendait dans le lointain le galop d'un cheval. Ce galop allait se rapprochant, puis on entendit un hennissement. Venait-il du cheval lancé au galop ou des deux chevaux qui attendaient attelés à la voiture? C'est ce que ne put distinguer Salvatore, l'ombre du cheval et du cavalier commençant d'apparaître juste à la hauteur du massif d'arbres où était cachée la voiture. Le cavalier se rapprochait rapidement. « À terre, Jean Taureau, à terre !» cria Salvatore. Jean Taureau se laissa tomber plutôt qu'il ne sauta. Comme il avait déjà fait une fois, Salvatore se rejeta dans l'intérieur du parc sans abandonner le chaperon du mur. Puis, se soulevant à la force des deux mains, il amena ses yeux à la hauteur du chaperon. Le cavalier passa, enveloppé de son manteau. Malgré ce manteau, Salvatore reconnut l'Orédan de Valgeneuse. « C'est lui, dit-il. » Et il sauta légèrement à terre, tandis que Roland faisait entendre un grognement sourd. « En route, dit Salvatore, il n'y a pas de temps à perdre, si toutefois il n'y a pas déjà trop de temps perdu. » Salvatore s'élança à travers le parc. Les deux hommes le suivirent.